Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ici pour bénir ce mariage. Thierry et Pierina ont voulu que Dieu bénisse leur union. Et le mariage, plus que jamais, a besoin d'être béni par le Seigneur, car sans sa bénédiction, il y a tant de mariages qui finissent par la séparation, ou des mariages qui ne sont pas heureux, parce qu'il n'y a pas la bénédiction du Seigneur. Ceci est très important. Ce n'est pas une simple formalité. C'est le salut du couple. Car Dieu qui a créé le mariage est celui qui veut le bénir, le garder, l'enrichir, afin que ceux qui aient sa bénédiction soient heureux, pleinement heureux, et un témoignage dans ce monde. Comment réussir son mariage? C'est là la méditation à laquelle je vous invite cet après-midi. Comment Thierry et Pierina peuvent-ils réussir leur mariage? Comment aussi chacun d'entre nous ici pouvons-nous réussir notre mariage? Vous dites, peut-être ce n'est pas possible. Avec tous les échecs, avec toutes les séparations, est-ce possible encore? Oui, cela est possible, mes amis, si nous fondons notre foi sur la parole de Dieu, sur le rocher de la parole de Dieu. Nous pouvons fonder notre foyer. Tu peux fonder ton mariage et Dieu peut le bénir. C'est pourquoi j'aimerais lire pour vous maintenant les textes dans la Bible qui nous parlent du mariage, de l'institution du mariage. J'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 18, c'est là que nous trouvons les premières mentions du mariage. C'est là que le premier mariage a été célébré par l'Éternel Dieu. Et voici ce qu'il est dit. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée, elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous allons lire un passage que le Seigneur Jésus lui-même a relevé dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, voici ce que le Seigneur Jésus dit en reprenant lui-même l'histoire de la création, l'institution du mariage lors de la création. Matthieu, chapitre 19. Voici ce qu'il est dit. Au verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Voyez-vous, le Seigneur Jésus ici reprend les paroles qui ont été données lors de l'institution du mariage au début de la création. Et maintenant, un troisième texte, c'est l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens qui nous rappelle comment le mariage doit se faire dans l'Église chrétienne. Quel est le rôle du mari, de la femme ? Le mariage est quelque chose de sacré qui doit être honoré devant Dieu et devant les hommes. Voici ce que l'apôtre Paul dit concernant les relations entre mari et femme. Ceci est très important de considérer maintenant. Éphésiens, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 22, voici ce que l'apôtre Paul dit, poussé par le Saint-Esprit. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, voyez-vous ce même verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce verset se trouve trois fois dans les Écritures que nous venons de lire, dans la Genèse, dans les paroles de Jésus et maintenant l'apôtre Paul lui-même rappelle ce qu'est le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et j'aimerais lire encore un dernier texte dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 13, verset 4, une dernière instruction concernant la sainteté du mariage. Voici ce qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. » Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu pour Thierry et Pierina. Que le mariage soit honoré de tous. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage est une invention divine. Et Dieu n'invente jamais rien pour rien. Dieu a créé le mariage pour le bien de l'homme et de la femme, pour son épanouissement, pour son bonheur. Si nous suivons les exhortations, les instructions de la parole de Dieu concernant le vrai mariage, le mariage chrétien, la Bible nous dit que si nous suivons ces instructions, le mariage sera comme le ciel sur la terre. Ce sera le paradis. Vous vous rendez compte? Selon le plan de Dieu, le mariage, dans le plan de Dieu, doit être le paradis, le ciel sur la terre. Vous dites, c'est bien beau ce que vous dites. C'est exactement le contraire. Avec tant de personnes, c'est l'enfer sur la terre. C'est l'enfer dans le foyer. Qu'est-ce que vous me racontez, monsieur? C'est pas possible. Vous me parlez du ciel sur la terre, mais regardez autour de vous. Regardez mon expérience, c'est l'enfer. Pourquoi? Pourquoi une telle déclaration? C'est parce que justement, nous n'avons pas suivi les instructions que Dieu nous donne concernant le mariage chrétien. Et c'est ce que nous allons méditer ensemble maintenant. Si nous suivons ces instructions, l'enseignement du Seigneur sera une véritable bénédiction pour nos foyers. Dieu peut encore restaurer ton foyer. Dieu peut faire des miracles dans ton foyer si tu veux tout simplement suivre ses instructions. Et pour Thierry et Pierina qui commencent leur vie à deux, nous leur souhaitons de tout cœur de mettre toute leur confiance dans la parole de Dieu et de suivre les instructions du Seigneur pour que leur mariage réussisse. Son mariage, la première règle est celle-ci. Votre mariage réussira si vous obéissez aux instructions contenues dans la Bible. Je répète, votre mariage réussira si vous obéissez aux instructions contenues dans la Bible. C'est là une vérité très importante. Pourquoi certains mariages échouent? Pourquoi est-ce que maintenant nous avons un divorce sur deux mariages maintenant? C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Et on se demande où cela peut aller. Mais pourquoi cela? Pourquoi tant de souffrances? Tout simplement parce que les époux ne mettent pas en pratique les instructions de la parole de Dieu. Pour que votre mariage et mon mariage réussissent, je dois faire comme la parole de Dieu le dit. Dieu est le Créateur. Il nous montre et il nous a montré dans sa parole comment nous devons faire pour être heureux. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas aussi la faute du mariage, c'est la faute des partenaires, des conjoints. Vous savez, bien souvent, lorsque vous achetez une machine ou un appareil, à peine arrivé à la maison, vous faites cela, vous ne prenez pas le temps d'étudier la notice d'utilisation. Vous voyez, vous ne prenez pas le temps. Vous amenez l'appareil ou la machine à la maison. Ah, oh, on est pressé. Allez, vous avez acheté, supposé, maintenant une machine à laver avec votre épouse. Allez, vite, dépêche-toi. Amène cette machine. Oh, tu avais toujours de la peine à laver par-ci, par-là. Allez, viens. Oh, je t'ai acheté une machine maintenant. Ça va marcher, tu vas voir. Formidable. Vous arrivez, il y a beaucoup de linge à laver. Vous dites, oh, on n'a pas le temps. Il faut vite maintenant que ça marche. Mais vous ne lisez pas les instructions précises qui sont données pour que la machine marche. Vous faites venir devant la machine, vous êtes là. Allez, maintenant, vous appuyez sur un bouton.
Et vous attendez que ça marche? Rien qui marche. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? On s'est fait avoir. On s'est fait avoir par le vendeur. Ouh, celui-là, si je pouvais... Si je pouvais l'attraper, c'est pas possible. Tu te rends compte? J'appuie sur tous les boutons et ça marche pas. Il faut que j'aille le voir. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? T'as vu? Dis-moi ce qui se passe. C'est pas possible. On s'est fait avoir. Oh, les gens, qu'est-ce qu'ils sont malhonnêtes aujourd'hui? Ils sont malhonnêtes. Cette machine, on a payé cher, elle marche pas. Vous téléphonez au vendeur. Dites, vendeur, vous m'avez eu, hein? Comment je vous ai eu? Comment je vous ai eu? Vous m'avez vendu une machine, elle marche pas. Comment elle marche pas? Elle est toute neuve, la machine. Il n'y a aucun problème. Elle doit marcher. Comment elle ne marche? Non, elle ne marche pas. J'ai appuyé sur tous les boutons les uns après les autres, ça n'a pas marché. Et le vendeur vous dit, est-ce que vous avez lu la notice d'utilisation? Quelle notice d'utilisation? On n'a pas le temps. Comment? Tu n'as pas le temps de lire la notice d'utilisation et tu veux que la machine marche? Mais ce n'est pas étonnant que ta machine ne marche pas. Si tu veux que la machine marche, il faut prendre le temps de lire les instructions pour savoir comment on la fait marcher. N'est-ce pas vrai? C'est la moindre des choses qu'on doit faire. Et le vendeur vous dit, quand vous aurez bien suivi les instructions, vous verrez que la machine marchera. Ah bon, d'accord. Bon, bah, alors tu as vu, il faut prendre le temps de lire maintenant. Alors lisons, chérie, un petit peu. Qu'est-ce que tu as compris, ça? Ah oui, ça, il faut faire... Ah oui, pour commencer, il faut appuyer là. Nous, on a appuyé ailleurs, déjà. On a fait déjà le contraire. Après, il faut faire ça. On a fait encore le contraire. Après, on a fait ça. Voilà. Et alors, au bout de quelques instants, vous faites exactement ce qui est écrit et vous appuyez sur le dernier bouton. Pff, ça marche. Ça commence à tourner. Ça y est, elle marche. Elle marche, ça marche, ça marche. L'exemple que je vous donne là, mes amis, avec le mariage, c'est exactement la même chose. Bien souvent, des êtres s'aiment. On ne veut pas douter de leur amour. Là n'est pas là du tout la question. Mais on ne prend pas le temps de voir ou d'étudier, de se soumettre aux instructions que Dieu nous donne dans la Bible pour que le mariage réussisse. Oh, on dit, oh ça, ce vieux jeu, tout cela, on n'a pas besoin de ces choses. Nous, vous verrez que ça marchera. Moi, avec ma femme, si ça marche pas, d'abord, il faut que ça marche et tout ça. Et puis l'autre, la femme dit à son mari, voilà, avec de toute manière, je vais bien me débrouiller et ça marchera quand même. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qu'on réalise? Absolument rien ne marche. C'est comme la machine, on appuie sur tous les boutons. Et rien ne marche. La machine ne marche pas, le mariage ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah ben voilà, et voilà. Voilà. Donc le mariage, c'est quelque chose de dépassé. Voyez-vous? On dit que c'est une institution du passé qui est dépassée. Mais qui est en faute? Est-ce que c'était la machine qui était en faute? Ou ceux qui utilisaient la machine? Dites-moi un petit peu, qui était en faute? Les jeunes époux mettaient la faute sur le vendeur. Mais tout de suite après, quand le vendeur a dit hey, « il faut lire un peu la notice et puis après ça ira mieux », ils ont vu que ce n'était pas la machine qui était en tort, mais c'était eux-mêmes. Et quand ils ont commencé à obéir tout simplement aux instructions, la machine a marché. Mais avant cela, il n'y a rien qui marche. Les machines sont en panne. Que de mariages sont en panne aujourd'hui. Que de mariages en panne. Ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'utilise pas la notice d'utilisation qui nous montre exactement ce que nous devons faire. Thierry et Pierina, si vous voulez que votre mariage réussisse, il faut faire selon les instructions de la parole de Dieu. Si vous voulez que votre mariage réussisse, il faut vous adresser au constructeur du mariage, au créateur du mariage. C'est lui qui a créé le mariage, le Seigneur. Si nous allons à lui et que nous obéissons dans sa parole, aux instructions, vous verrez que votre mariage marchera. Gloire au Seigneur. Premier point important, première règle, si nous négligeons la notice d'utilisation, d'instruction, pour que le mariage marche, mes amis, même si vous avez la plus belle machine, ça ne marchera quand même pas.
même si vous avez la plus belle femme du monde, même si vous avez l'homme le plus beau du monde, ça ne marchera quand même pas. Ah, vous dites-moi, ma femme, c'est la plus belle du monde. Ah oui ? Si tu ne fais pas selon les instructions de la parole, ça ne marchera pas. Mon mari, c'est le plus beau, vous verrez. Qu'est-ce que vous croyez ? Ah oui, est-ce que vous croyez ? Beaucoup de sentiments, mais au bout de quelque temps, il n'y a rien qui marche. Il faut suivre la notice d'instruction, d'utilisation, pour que la machine marche. Et cela, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point important. Premier point important. Deuxième point important. Deuxième règle maintenant. Comment faire que votre mariage réussisse ? Deuxième vérité importante. Votre mariage réussira si vous êtes absolument déterminé à ce qu'il réussisse. Je répète. Là, il y a une vérité importante maintenant. Votre mariage réussira à condition que vous soyez absolument déterminé à ce qu'il réussisse. Si vous rentrez et si vous vous mariez en disant « Ah, bon ben, on se marie, mais le jour où ça n'ira pas, au revoir. » Alors vous pensez bien que votre mariage ne risque pas de réussir. La moindre difficulté sera une montagne pour vous. Et vous qui vous êtes tant aimé, la moindre petite chose vous séparera. Voilà pourquoi certains ne réussissent pas dans leur mariage. Ils ne sont pas décidés, déterminés à ce que ce mariage réussisse. Je crois que Thierry et Pierina ont pris cette décision. À vous qui êtes ici, à vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas pris cette décision que votre mariage réussisse, mes amis, les moindres difficultés vous arrêteront. Vous arrêteront, vous n'irez pas bien loin. Mais si vous êtes décidés à ce que votre mariage réussisse, Dieu vous viendra en aide. Vous aurez l'intelligence, la sagesse. Dieu vous donnera tout cela pour que ce mariage réussisse. Mais c'est là un point important. Es-tu décidé à ce que ton mariage réussisse ? C'est un point important. Es-tu décidé ? Ça, c'est quelque chose de capital. Je suis décidé à ce que ça marche. Alors, ton mariage réussira. Mais si nous sommes chancelants, en disant « je me marie jusqu'à ce que je trouve la personne de mes rêves ». Vous savez, il y en a qui se marient comme ça. C'est en attendant que la personne de leurs rêves se trouve sur leur chemin. Et voilà, alors ils sont là, mariés, mais ils attendent que quelque chose tombe sur eux. Vous voyez, vous, ils considèrent l'amour comme quelque chose qui leur tombe sur la tête comme ça. Bon, quelque chose qui vient sur eux et qui disparaît aussi, sans qu'ils sachent ni pourquoi ni comment. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de stabilité. On se marie, mais dès que les difficultés arrivent, il n'y a plus rien du tout. Non. La parole de Dieu dit bien, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sa tâchera à sa femme. Le mot attacher veut dire se fondra à sa femme. Ce sera une fusion avec sa femme. C'est une détermination à aller jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Il n'y a que ces mariages qui réussissent. Dites-moi un petit peu. Dans votre profession, si vous voulez s'arrêter par la moindre difficulté, est-ce que vous allez arriver à quelque chose ? Vous n'arriverez à rien du tout. Si la moindre difficulté vous arrête, est-ce que vous pouvez arriver à quelque chose ? Apprendre vraiment un métier ? Avoir vraiment une profession louable ? Vous ne pouvez pas. Il n'y a que ceux qui sont décidés à aller jusqu'au bout qui arrivent à quelque chose, n'est-ce pas vrai ? Et dans le mariage, il en est ainsi. C'est un secret, c'est une clé, c'est une règle. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont pris la décision de réussir. Gloire au Seigneur. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit, Dieu vous viendra en aide. Troisièmement, troisième règle, votre mariage réussira si vous demandez au Seigneur de venir dans votre foyer pour en être le sauveur et le Seigneur. Je répète cette troisième règle. Votre mariage réussira si vous demandez au Seigneur Jésus de venir dans votre foyer pour en être le Sauveur et le Seigneur. Écoutez-moi bien. L'époux, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, aux noces de Cana, vous savez, quand on lit la Bible aux noces de Cana, savez-vous où Jésus a fait son premier miracle? Il l'a fait le jour d'un mariage. C'était comme si le Seigneur Jésus mettait une importance capitale sur le mariage. Le premier miracle de Jésus n'a pas été un miracle physique, la guérison d'un aveugle, ou d'un sourd, ou d'un muet. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était aux noces de Cana. Il nous est dit que l'époux avait invité Jésus à ses noces. Quelle bonne idée il a eue! Car Jésus a sauvé son mariage. À un moment donné, lorsque nous lisons dans l'Évangile, il est dit qu'ils avaient servi tout le bon vin, mais qu'après, je ne sais pas si les invités avaient beaucoup soif, ou si c'est l'époux qui n'avait pas mis assez de vin, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, je ne sais pas. Mais à un moment donné, c'était la catastrophe. Plus de vin, plus rien du tout. C'était la catastrophe. Et vous savez qu'en Israël, en ce temps-là, un mariage durait 7 jours. 7 jours de festivité, 7 jours de joie. Tout le monde savait qu'ils étaient mariés. Le mariage, c'est une vraie, une véritable fête. Quand on est décidé à se donner à son conjoint jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de sa vie, c'est une véritable fête. Quelle bonne idée il a eue, cet homme, de dire à Jésus de venir. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de vin, c'était la catastrophe. La joie commençait à disparaître. Plus personne ne commençait à chanter, à danser, c'était fini. Marie était là, la mère de Jésus. Et Jésus dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Et Marie, s'adressant au serviteur, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand il vous dira quelque chose, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Et à celui qui servait le vin, il a dit, remplis ces 6 cruches, remplis les d'eau. Comment d'eau? Pas possible, c'est pas de l'eau qu'il nous faut, c'est du vin. Remplis-les et va servir après. Et l'autre a obéi à cette parole de Jésus qui était apparemment un peu insensée. C'était une folie, n'est-ce pas? Mais il a obéi quand même. Rempli d'eau, mais c'est pas d'eau qu'il nous faut, c'est du vin. Rempli d'eau, il a obéi au Seigneur. On n'est jamais perdant quand on obéit au Seigneur. Jamais, jamais. Même s'il nous demande quelque chose qui est apparemment une folie, insensée. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Mais si tu obéis au Seigneur, tu ne seras jamais perdant. Ils n'ont pas obéi. Il a obéi. Et quand ils sont allés goûter cette eau était transformée en vin. Le meilleur, Jésus l'avait gardé pour la fin. Voici ce qu'il en est avec Jésus. Le meilleur est toujours à venir. Gloire au Seigneur. Mais si cet homme n'avait pas invité Jésus, c'était le fiasco. Dès le début de leur mariage, c'était déjà le fiasco. Mais heureusement qu'il l'a invité. Oh, Thierry et Pierina ont invité Jésus. Vous pouvez aussi l'inviter. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, Jésus veut venir. Il faudra un miracle. Mais Jésus peut faire un miracle. Il est le seul qui fait des miracles. Gloire au Seigneur. Et c'est ainsi que cette noce a été sauvée parce que Jésus a été invité. Mes amis, si Jésus n'est pas là, alors notre amour ne tiendra pas l'un pour l'autre. Nous avons besoin de lui. Écoutez-moi bien. Nous avons été faits pour nous aimer l'un l'autre. Mais nous avons aussi été faits pour adorer le Seigneur. Et cela, vous devez le comprendre. Vous n'avez pas seulement été créés pour vous aimer l'un l'autre. Mais avant tout et par-dessus tout, vous avez été créés pour aimer, adorer le Seigneur. Alléluia. Et s'il n'y a pas cette dimension spirituelle au mariage, il manquera quelque chose. Il y a un vide. Seulement le plaisir sexuel n'est pas suffisant. Le sexe doit être vécu à l'intérieur du mariage. Mais si nous ne vivons que pour cela, cela ne pourra pas nous satisfaire. Il y a d'autres besoins en nous. Un besoin spirituel. Un besoin spirituel. Le besoin d'aimer Dieu, d'adorer le Seigneur. lorsque nous l'acceptons comme notre sauveur, alors nous pouvons pleinement jouir d'une vie chrétienne, heureuse, gloire au Seigneur. C'est un point important. Quatrièmement, votre mariage réussira si les rôles des conjoints sont clairement établis. Voyez-vous, il y a là une vérité importante maintenant. Pourquoi tant d'échecs dans les mariages, dans les ménages? Votre mariage réussira si les rôles des conjoints sont clairement établis. Nous vivons un temps où, comme les gens ne croient pas à la Bible, alors qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, voilà. On est tous égaux et on fait chacun comme on veut. Mais la Bible dit que nous sommes égaux, c'est vrai. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Mais écoutez-moi bien, pour que ça marche dans le ménage, il faut réaliser une chose. Nous sommes égaux, l'époux et l'épouse sont égaux, mais ils ont des rôles différents. Le mari ne peut pas avoir le rôle de la femme et la femme ne peut pas avoir le rôle de l'homme. Ce n'est pas interchangeable, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui, en disant, ah ben voilà, l'homme peut faire le travail de la femme peut faire le travail de l'homme. C'est une erreur, c'est une illusion. Voilà pourquoi ça ne marche pas. En tant qu'épouse, vous avez un rôle spécifique. Et en tant qu'époux, vous avez un rôle spécifique. Il faut le savoir. Et c'est la Bible qui nous le dit. C'est la Bible. Et quel est le premier rôle de l'épouse? Nous l'avons lu tout à l'heure. L'Éternel Dieu créa l'homme. Et ensuite, il est dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ensuite, il créa la femme qui a été là pour être son aide. Son aide. Le rôle de la femme est d'aider son mari, de l'aider, de se tenir près de lui pour le compléter. Le mot « aider » dans le texte original veut dire « la femme est une aide pour l'homme ». Ça veut dire que c'est son complément, son complément. L'homme n'est pas complet en lui-même. Et la femme n'est pas complète en elle-même. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que l'homme est complet par lui-même et que la femme est complète en lui-même, en elle-même. C'est une erreur. C'est une erreur. Voilà pourquoi ça ne va pas. L'épouse a été créée pour être une aide à son mari. Qu'est-ce que cela veut dire? L'épouse est là pour compléter son mari. Ce que le mari n'a pas, la femme l'a. L'épouse a certains dons que le mari n'a pas. Et le mari doit être assez humble pour faire dire et pour faire ressentir à sa femme « J'ai besoin de toi. Dans tel ou tel domaine, j'ai besoin de toi. » Et la femme a besoin de se sentir utile. Mais bien souvent, l'homme est trop orgueilleux et dit « toi tu laves ici un petit peu, hein, la maison c'est tout, moi j'ai pas besoin de toi. » Comme si l'homme est suffisant en lui-même. Quelle erreur! Quelle erreur! C'est une erreur. L'homme n'est pas complet en lui-même. Dieu te donne une épouse parce que tu as besoin d'elle. Elle te complète. Elle te complète. Ce que tu n'as pas, elle l'a. Moi, avec mon épouse, je suis très heureux avec elle parce qu'elle me complète. Elle a des talents que moi, je n'ai pas. J'ai des talents que elle n'a pas. Mais dans le cœur de l'épouse, il y a ce désir d'aider son mari. Mais le mari doit être assez humble pour dire, chérie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Savez-vous qu'il y a beaucoup de maris qui sont tellement orgueilleux. Dire à leur femme, j'ai besoin de toi, c'est trop humiliant. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Jamais ils s'humilieront pour dire, j'ai besoin de toi, chérie, dans tel ou tel domaine. Tu as certaines choses que je n'ai pas. J'ai besoin de toi. Il y en a trop qui sont orgueilleux. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Ils ne veulent pas reconnaître leurs limitations. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont limités. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et l'épouse est là, qui voudrait aider son mari, qui aime son mari, mais qui ne peut pas l'aider vraiment, parce que lui ne le veut pas. Mais dès que le mari dit, chérie, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Il faut tout faire ensemble dans le foyer. Avec mon épouse, nous faisons tout ensemble. Il n'y a pas un travail par-ci pour moi, un travail pour elle de son côté. Nous faisons tout ensemble.
Nous nous consultons dans tous les domaines. Tout se fait dans une harmonie. Et j'aime bien souvent avoir son avis, car dans bien des domaines, j'aurais fait beaucoup d'erreurs sans avoir le conseil et l'avis de ma femme. J'aurais fait beaucoup d'erreurs. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a justement donné une femme pour ça, pour m'empêcher de faire des erreurs, pour m'aider. C'est là le rôle de la femme. C'est pourquoi la femme doit être soumise à son mari. Voyez-vous, le mot « soumis » ici ne veut pas dire, comme beaucoup peuvent le penser, que la femme soit l'esclave du mari. Pas du tout. La Bible ne donne jamais de telles instructions. Quand la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, ça n'a rien à voir avec l'esclavage ou l'infériorité. Il y en a qui pensent, il y a beaucoup de femmes qui disent « Comment ? Dans la Bible, vous avez vu ce qui est écrit ? La femme doit être soumise à son mari. Scandale ! » Voyez-vous, scandale ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La femme doit être soumise. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Quand la Bible dit que la femme doit être soumise, c'est son rôle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à son mari. Ça ne veut pas dire que le mari est supérieur à sa femme. Ça ne veut pas dire que la femme est l'esclave de son mari. Pas du tout. Cela veut dire tout simplement une chose. C'est que dans un foyer, il ne peut pas y avoir deux têtes. Il faut une seule tête. Dans une usine, s'il y a deux patrons qui prennent tous les deux des décisions, est-ce que cette usine va marcher ? Dites-moi un petit peu. L'un dit blanc, l'autre le lendemain il dit noir. Vous croyez que ça va marcher ? En peu de temps, cette usine fera faillite. À la tête d'un pays, s'il y avait deux présidents, est-ce que ça marcherait ? Ça ne marcherait pas du tout. Même avec un président, ça marche. On a déjà de la peine à voir que ça marche. Si on en met deux, c'est la catastrophe cette fois. Avec un, c'est déjà difficile. Alors avec deux, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand la femme doit être soumise, cela veut dire qu'il faut une seule tête. À un moment donné, l'épouse est là pour dire tout ce qu'elle pense. Quand elle voit que son mari fait des erreurs, par exemple, elle doit dire à son mari ce qui ne va pas. Elle doit le dire, c'est sa responsabilité. Mais si le mari, lui, dit « Écoute chérie, moi je vois la chose comme ça, eh bien, c'est comme ça que ça se fera », alors l'épouse, là, doit se soumettre. Car c'est au mari qu'appartient la décision finale dans un foyer. Il faut quelqu'un qui décide et qui prenne les décisions finales. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est important. Sinon, c'est la catastrophe. Si tous les deux prennent des décisions finales, ça n'ira jamais. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On veut donner à tous les deux la décision finale et ça ne va pas.
L'un dit « Non, c'est comme ça que ça sera ».
Et l'autre dit « Non, c'est comme ça que ça sera ». Comment voulez-vous que ça marche ? Ça ne marchera jamais. L'épouse, là, doit être soumise. La responsabilité de l'épouse est très importante, là. Son rôle est très important, car si elle ne se soumet pas, elle détruit son foyer. Elle détruit son mariage. C'est ce que Dieu lui demande. Et c'est ce que Dieu demande d'elle. Elle est heureuse lorsqu'elle fait cela. Elle doit dire à son mari tout ce qu'elle pense. Mais si le mari n'est pas d'accord, la décision finale appartient au mari. C'est lui la tête, il est la tête, et c'est lui qui décide. En dernier, c'est pourquoi, là c'est important, je sais que ça peut surprendre certains dans le monde, on n'entend pas ces choses, mais mes amis, on se croit plus sage que Dieu aujourd'hui, on se croit plus sage que Dieu, n'est-ce pas vrai ? On dit « Oh, ça s'est dépassé, Dieu s'est dépassé, ah oui, c'est dépassé, c'est tellement dépassé qu'on divorce 15 jours après, qu'on fait des matchs de boxe à la maison, on dit que c'est tout dépassé, où est la paix, où est l'harmonie dans le foyer ? Il n'y a rien du tout, on pense faire mieux que Dieu, on dit « Dieu, voyons, tout cela, c'est du passé, montre les fruits que ce que tu fais est mieux, est-ce la paix dans ton foyer, est-ce l'harmonie, est-ce la joie, est-ce que ta femme est vraiment réjouie ?» Mes amis, c'est là une vérité très importante. Et le rôle du mari, c'est d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et cet amour doit être un amour qui se sacrifie, qui se donne pour sa femme. L'homme doit être prêt à donner sa vie pour sa femme, à se donner. C'est ça le véritable amour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les maris, certains maris disent « je t'aime chérie », mais quand des difficultés arrivent, « excuse-moi, il faut que je réfléchisse un petit peu maintenant ». Quand la souffrance et les difficultés arrivent, il n'y a plus personne. Et on abandonne sa femme, ses enfants, on s'éloigne. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme, et le mot aimer veut dire un amour qui renonce à ses propres intérêts, qui aime sa femme malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, malgré son mauvais caractère. Le mari continue d'aimer sa femme. C'est très important. C'est un amour qui se sacrifie, qui ne recherche pas ses propres intérêts, mais qui recherche les intérêts de sa femme. C'est un amour qui s'oublie soi-même et qui cherche le bien du conjoint. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons quand nous entendons parler d'amour ? C'est tout à fait l'opposé. Chacun recherche ses propres intérêts, et voilà pourquoi ça ne marche pas. Marie, si tu veux aimer ta femme, tu dois renoncer à toi-même, à tes propres intérêts. Tu dois chercher l'épanouissement de ton épouse. Tu dois être prêt à renoncer à toi-même, tes intérêts. Aime-la malgré ses défauts, malgré ses problèmes. Aime-la, patiente avec elle. Dis-lui que tu l'aimes, telle qu'elle est, qu'à tes yeux, elle a une grande valeur. Dis-lui que qu'elle est la plus belle femme du monde et que si tu devais te remarier, c'est avec elle que tu te remarierais. C'est cela l'amour. Mais ce n'est pas un amour intéressé qui dit « je t'aime chérie » quand tout va très bien et quand l'épreuve, la difficulté arrive. Oh, c'est fini, on abandonne. Voilà pourquoi certaines personnes ne se marient pas aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur de l'autre. Ils ont peur de l'autre. Ils ont dit « le jour où ça ira mal, il s'en ira ». Voilà pourquoi on ne se marie pas. Parce qu'on ne connaît pas le véritable amour de Dieu. Mais le véritable amour est celui-ci. Je me marie avec toi et je t'aimerai jusqu'au bout, malgré tes défauts. Dans les difficultés, dans la souffrance, dans l'épreuve, je serai avec toi. Je t'aimerai jusqu'au bout. Voilà l'amour qui consolera le cœur de la femme. Amen. C'est lorsque vous êtes prêt à faire cela que votre femme saura que vous l'aimez vraiment. N'est-ce pas vrai? Là, elle saura que vous l'aimez. Tout le reste, c'est du cinéma. Tout le reste, ce ne sont que des sentiments, des émotions, c'est tout. Que le Seigneur soit béni. Je vais un peu plus vite maintenant. Cinquièmement, votre mariage réussira si vous êtes déterminé à lutter contre son plus grand ennemi, qui est l'égoïsme. L'égoïsme est le plus grand ennemi de votre mariage. Beaucoup de mariages sont détruits à cause de cet égoïsme. Chacun ne recherche que ses propres intérêts. On utilise l'autre pour soi-même. On se sert du conjoint pour satisfaire ses propres désirs, mais on ne sert pas l'autre en s'oubliant soi-même. L'égoïsme, c'est ce qui détruit des ménages, c'est ce qui détruit des foyers, c'est ce qui détruit des couples. L'égoïsme, chacun pense à soi-même. Le mariage chrétien, c'est celui-ci. Je m'oublie moi-même pour le bien de l'autre. Gloire au Seigneur. Je ne cherche pas mes intérêts, mais tes intérêts à toi. Quelle délivrance, quelle joie, quelle victoire, quelle paix lorsque nous sommes comme cela. Sixièmement, votre mariage réussira si vous ne plaisantez jamais sur votre conjoint en privé et en public. Il y a là une vérité très importante. Il y a beaucoup de maris ou de femmes qui critiquent leur conjoint, leur partenaire devant les autres. Hein, ma femme ? Vous saviez, c'est pas beau, hein ? Devant tout le monde. Et la femme, bien souvent aussi, utilise cette arme et critique et plaisante sur son mari devant les autres. Et bien souvent, elle utilise cette arme pour essayer de changer son épouse. Elle utilise le chantage. Mais la critique n'a jamais changé quelqu'un. La critique n'a jamais changé votre conjoint. La critique fait deux choses. Tue l'amour et la critique ne changera jamais votre conjoint. Et les épouses, tout spécialement, vous devez faire attention à cela. Bien souvent, quand elles veulent changer leur mari, elles commencent à le critiquer et à dire des paroles négatives sur lui devant les autres. L'épouse qui ne respecte pas son mari devant les autres ne sera pas respectée par ces personnes-là. Votre mari a besoin d'être respecté. Il faut veiller à cela. Le respect mutuel est très, très important. Très important. Ne plaisantez jamais sur les défauts, les faiblesses de votre conjoint devant les autres. Si vous avez quelque chose à lui dire, faites-le en privé, seul à la maison. Septièmement, votre mariage réussira si vous vous faites réciproquement des compliments, sincèrement et souvent. Voilà le mariage qui réussit. Lorsqu'on se fait des compliments très souvent. Moi, j'aime beaucoup quand ma femme m'encourage. Par exemple, lorsque j'ai prêché un beau sermon, après le message, elle vient me dire, écoute chérie, là, vraiment, c'était bien ce que tu as dit, tu as bien parlé, ça m'encourage beaucoup. Lorsque je parle avec quelques personnes, par exemple, et que je vois ma femme qui acquiesce comme cela, qui est vraiment avec moi, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et l'époux est toujours encouragé quand son épouse est là pour lui dire, écoute chérie, il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Vous devez être la première admiratrice de votre mari. Alléluia. Il y a des femmes, j'ai remarqué ça bien souvent, qui admirent beaucoup d'autres hommes. Et le petit mari, là, lui, rien du tout, il n'y a rien pour lui. Oh, vous savez, tel homme, formidable, extraordinaire. Et le petit mari qui est à la maison, il n'y a rien pour lui. Et là, ce qu'elle sort, c'est « Tu es exactement comme ton père, comme ton grand-père, exactement les mêmes défauts. » Et en parlant des autres, « Oh, celui-ci est extraordinaire. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous croyez que ça va marcher ? Ça ne marchera jamais. Tu dois être la première admiratrice de ton mari et le montrer. « Chérie, il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. » Et quand il faut l'encourager, vous l'encouragez aussi. Vous faites des compliments souvent. Le conjoint ne sera jamais fâché lorsque vous faites cela. Et le mari aussi doit encourager sa femme. Je vois que très souvent, ma femme aussi a besoin d'être encouragée. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle était un peu, elle ronchonnait un petit peu, c'était de ma faute. C'est que depuis un certain temps, peut-être, je ne l'avais pas assez encouragée ou complimentée dans un domaine ou dans un autre. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine insatisfaction en elle. Et cela me parlait beaucoup. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Si elle est dans cet état-là, c'est que je ne lui ai pas donné ce qu'il lui fallait aussi. Pardonne-moi. Et tout de suite, j'essaye de mieux encourager. Ton épouse a besoin d'être encouragée aussi. Remarque les petites choses qu'elle fait à la maison. Remarque-le. Remarque les moindres petites choses. Remarque-le. C'est très important. L'homme vit à l'extérieur. Il a ses compliments bien souvent à l'extérieur. Mais l'épouse, elle vit à l'intérieur. Et il n'y a que le mari qui peut l'encourager. Fais-le. Fais-le souvent. Tu verras une femme heureuse, épanouie. Les moindres petites choses qu'elle fait, dis-le, chérie, c'est bien fait. Si elle cuisine bien, dites-lui, mais dis non, cuisinière comme toi, cordon bleu, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, extraordinaire. Toi, tu sais bien cuisiner, mais ma femme, c'est au-dessus. Aucune comparaison. Votre femme qui entend ça, je vous dis, oh là là, elle tombe dans les pommes. Elle tombe dans les pommes, c'est impossible. Ça entretient l'amour, c'est important. Le mari doit encourager sa femme. Faites-le souvent, faites-le. Il y a des maris qui n'encouragent jamais leur femme. Jamais. Pas un mot. Zéro. Non. Rien du tout. Non. Votre mariage sera insatisfait. Je vais un peu plus vite maintenant, parce que le temps passe. Huitièmement, j'en ai 10. J'ai 10 points. J'arrive au bout. Votre mariage réussira si vous apprenez à vous demander sincèrement pardon et aussi à pardonner. Je répète. Vous n'avez pas bien compris, il me semble. Si ? Je répète, parce que des fois, si vous n'avez pas bien compris, votre mariage réussira si vous apprenez à vous demander sincèrement pardon et aussi à pardonner. Pourquoi certains divorcent aujourd'hui ? Parce qu'on ne veut pas pardonner, n'est-ce pas vrai ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas ? Parce qu'on ne veut pas pardonner. Si vous vivez ensemble, même si vous vous aimez, la preuve d'ailleurs que vous vous aimez, c'est que vous vous pardonnerez. N'est-ce pas vrai ? Quand il n'y a pas de pardon à l'égard de son conjoint, il n'y a pas de véritable amour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous aimez votre femme et quand tout va mal, vous ne pardonnez pas. Qu'est-ce que c'est que cet amour ? C'est pas le véritable amour. Dans le vrai amour, il y a le pardon. Chérie, je t'aime, c'est pourquoi je te pardonne. Et vous serez appelé à vous pardonner. Et le mari doit donner l'exemple aussi dans ce domaine-là. Le mari doit donner l'exemple. Parce que lui, il est un peu plus orgueilleux, le mari. Il a de la peine à demander pardon. Et le Seigneur fera en sorte que ce soit le mari, le premier qui doit donner l'exemple. Si tu te plains parce que ta femme ne t'a jamais demandé pardon, c'est peut-être parce que toi, tu ne l'as jamais demandé pardon à ta femme. Si tu veux que ta femme te demande pardon, donne l'exemple déjà. Chérie, quand vous avez fait quelque chose de mal, pardonnez ou demandez pardon, faites-le. Vous verrez, c'est la joie, le bonheur qui revient. Il n'y a pas de mariage, de couple qui peuvent rester ensemble longtemps sans le pardon. Pardonnez. Et le pardon vous soudera les uns aux autres. Augmentera l'amour entre vous. C'est vital, c'est capital. Si vous ne pardonnez pas, vous ne vivrez pas. Le mari doit pardonner à sa femme, les parents doivent pardonner à leurs parents, à leurs enfants, les enfants doivent pardonner à leurs parents. Quand on se connaît intimement, alors on connaît les faiblesses et les défauts de son conjoint, de ses enfants, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il faut pardonner. Pardonner. Le pardon est une décision de la volonté. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Et vous verrez la délivrance, la paix, la joie. Gloire au Seigneur, je termine. Neuvièmement et dixièmement, votre mariage réussira si vous décidez de ne jamais prononcer le mot divorce. Je répète. Votre mariage réussira si vous décidez de ne jamais prononcer le mot divorce. Bien souvent, quand des difficultés arrivent, le mari ou la femme, comme ça, pour faire un peu du chantage, justement. Si tu continues, je divorce. Au début, c'est en plaisantant. On n'y pense pas, hein, on plaisante. Mais on veut un peu, soi-disant, secouer l'autre et lui faire apprendre la leçon. Si tu continues, je divorce, hein, tu sais. Ah, très dangereux ce que vous dites. Parce que si au début vous le dites en plaisantant, et si vous répétez ces paroles trop souvent, à un moment donné vous allez y croire. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez détruire votre foyer et l'amour dans le cœur de votre conjoint par ces paroles, le divorce. Tel parle légèrement et blesse comme un glaive, nous dit la Bible. Mais le sage, les paroles du sage apportent la guérison. Ne prononcez jamais le mot divorce. Et... vous savez, quand on est décidé à ne pas prononcer le mot divorce, qu'est-ce qui se passe? Alors on est obligé de faire face au problème, n'est-ce pas vrai? Et dire maintenant, il faut régler ce problème. Il y en a qui disent, ils ne veulent pas faire face à leur responsabilité, ils disent, je divorce. Comment? Au lieu de dire, je divorce, dis, je veux régler ce problème. Je veux faire face à mes responsabilités. Ne mets pas toujours les responsabilités sur ta femme, sur ton mari. Et ne dis pas, tort et à travers, je divorce. Tu seras peut-être pris un jour à ton propre piège. Ne prononce jamais ce mot. C'est un mot qui détruit. C'est un mot qui détruit l'amour dans le foyer, dans la famille. Les enfants souffriront d'une manière terrible. En général, quand tes enfants ont des parents divorcés, bien souvent eux-mêmes finissent par divorcer aussi. Malgré eux, ils disent jamais, moi je divorcerai. Et cependant, c'est ce qui se passe. D'où la responsabilité qu'il y a sur les parents de vous aimer jusqu'au bout. C'est la plus grande bénédiction que vous pouvez apporter sur vos enfants, dans votre foyer, dans votre famille. Et je termine, votre mariage réussira et restera uni si les époux prient ensemble et font de Christ le centre et le but de leur vie. Si Christ n'est pas au centre de votre mariage, alors ça ne tiendra pas. Les époux doivent prier ensemble et lire la Bible ensemble. C'est très important. C'est là, quand nous avons fait quelque chose de mal et que nous nous courbons devant Dieu, c'est là, devant Dieu, nous ne pouvons pas jouer les hypocrites. Si nous avons mal fait, nous demandons pardon à Dieu et nous demandons pardon à notre conjoint. La présence du Seigneur est une présence qui nous purifie de tout égoïsme, de toute amertume. La présence de Jésus est votre salut. Les époux qui prient ensemble resteront ensemble. Priez ensemble, courbez-vous devant le Seigneur quand les choses ne vont pas, et vous resterez unis, et Dieu vous bénira. Dans la prière, Dieu vous donnera son amour, son pardon, sa force, sa sagesse. Mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, rien faire. Mais si tu te courbes devant le Seigneur, si le couple se courbe devant le Seigneur, dans la faiblesse, en disant, oh Jésus, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas nous aimer comme on devrait s'aimer, nous ne pouvons pas nous pardonner. Oh, nous venons à toi, aide-nous, Seigneur. Dieu mettra son amour en vous. Dieu mettra son pardon en vous. Dieu vous transformera et vous gardera unis. Vous avez besoin de Jésus. Sans Jésus, il n'y a rien qui tient. Jésus est comme le ciment qui vous tient ensemble. Que Dieu vous bénisse. Dans un mariage chrétien, ce ne sont pas deux volontés qui luttent et qui cherchent à se dominer mutuellement, mais plutôt deux volontés qui ont été soumises à Jésus-Christ, afin que sa volonté, à lui, seule se fasse dans leur vie. Voilà ce qu'est un mariage chrétien. Ce ne sont pas deux volontés qui se luttent, qui se combattent mutuellement, mais deux volontés qui se soumettent au Seigneur pour faire sa volonté à lui. Et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement quand le couple se soumet à la volonté de Dieu dans sa parole. C'est le bonheur parfait. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais vous arriverez toujours à les résoudre. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que votre mariage est en péril, pas du tout. Votre mariage est en péril lorsque vous ne réglez pas ces problèmes et qu'un problème sur l'autre s'entasse, que vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes. Là, votre mariage est en péril. Mais avec Dieu et avec le Seigneur, il est toujours possible de régler les problèmes. Gloire au Seigneur, avec lui, seul. Que Dieu vous bénisse. Votre mariage réussira si vous mettez en pratique ces 10 exhortations. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Thierry et Pierina. Et nous croyons, eux-mêmes ont mis leur confiance dans le Seigneur. Ils ont fait une expérience avec le Seigneur. Jésus-Christ est devenu le centre de leur vie. Et à cause de cela, nous pouvons espérer l'harmonie, la paix, la joie. Parce que Jésus est au centre et que les instructions de sa parole seront obéies. En dehors de cela, il n'y a point d'espoir. Que Dieu les bénisse. Et maintenant, le moment solennel est arrivé de faire les vœux et de bénir leur mariage devant Dieu et devant les hommes.